Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, 8e cassette, 2e face, page 213. Chapitre 30. Ils ont disparu. Le dimanche matin, dès l'aube, Huck remonta la colline et s'en vint frapper doucement à la porte de la maison du vieux Gallois. Les trois hommes dormaient, mais à la suite d'événements comme il s'en était passé cette nuit-là, il ne dormait que d'un œil. Une fenêtre s'ouvrit.
« Qui est là ?»«
C'est que moi, Huck Finn. » »«
Voilà un nom qui, maintenant, fera toujours ouvrir notre porte, de jour comme de nuit. Sois le bienvenu, mon ami. »
Parole auxquelles le jeune vagabond n'était pas habitué et qui lui résonnait agréablement aux oreilles. Il ne se rappelait pas qu'on lui en eût jamais dit autant. La porte s'ouvrit, il entra et on le fit asseoir. Le vieux Gallois et ses fils s'habillaient.
« Mon garçon, j'espère que tu as de l'appétit. Un déjeuner bien chaud, oh, tu peux compter là-dessus, sera prêt au lever du soleil et tu ne seras pas de trop. Nous comptions bien que tu viendrais coucher ici cette nuit.
Ben, »« J'ai eu très peur, dit Huck, et je me suis sauvé. Au premier coup de feu, j'ai décampé en vitesse et j'ai bien fait au moins 5 km au pas de course. Mais il me tardait d'avoir des nouvelles et si je suis revenu avant le lever du soleil, c'est parce que cela ne me disait rien de rencontrer ces deux diables, même morts. »
Ah, mon pauvre petit gars, tu m'as l'air d'avoir passé une bien mauvaise nuit. Mais si tu veux faire un somme ici après ton déjeuner, il y a un lit pour toi. Non, ils ne sont pas morts et c'est bien dommage.
D'après ta description, nous savions exactement où les trouver. Nous nous sommes avancés à pas de loup jusqu'à 3 ou 4 mètres d'eux. Dans le sentier, il faisait noir comme dans un four.
Voilà-t-il pas que juste à ce moment-là, j'ai eu une envie terrible d'éternuer. C'est bien ma veine. J'ai essayé de me retenir, mais rien à faire. Il a fallu que ça parte. J'étais en tête, pistolet en main, et quand j'ai éternué, ces bougres-là sont sortis du sentier. On les entendait frôler les haies. J'ai crié « Tirez les gars !» Et en même temps que mes fils, j'ai fait feu dans la direction du bruit. Bah, les coquins n'ont pas perdu leur temps. Nous les avons poursuivis dans le bois. Nous n'avons pas dû les atteindre. Ils ont tiré sur nous un coup chacun. Nous avons entendu siffler les balles, mais ils nous ont manqué. Dès que nous n'avons plus rien entendu, nous avons abandonné la poursuite et nous avons été prévenir la gendarmerie. Un détachement est parti surveiller les abords du fleuve et dès qu'il fera jour, le shérif, à la tête d'un autre détachement, organisera une battue dans les bois. Mes fils se joindront aux gendarmes. Si seulement nous avions un signalement de ces deux brigands, ça ferait joliment bien l'affaire. Dis-moi, dans l'obscurité... Tu n'as probablement pas pu les voir.
Mais si, dit Huck, je les ai vus en ville et je les ai suivis.
Ah, ça tombe à pic. Dis un peu de quoi ils ont l'air.
Il y en a un qui est ce vieux sourd-muet espagnol qui est venu au village une fois ou deux. L'autre est tout déguenillé.
Ça suffit, mon petit, nous voyons qui c'est. Je les ai aperçus une fois dans les bois, derrière la propriété de Madame Douglas, et ils se sont trottés. En route, les gars, dites ça au shérif. Vous déjeunerez quand vous reviendrez.
Les fils du Gallois partirent aussitôt. Au moment où ils sortaient, Huck se leva d'un bond et s'écria
« Je vous en prie, dites à personne que c'est moi qui vous ai mis sur leur piste, je vous en prie !»« Entendu, puisque tu le demandes, mais pourquoi ne pas vouloir qu'on reconnaisse le mérite de ce que tu as fait ?»« Je vous en prie, ne dites rien !»
Après le départ des jeunes gens, le vieux Gallois dit
« Ils ne diront rien, moi non plus, mais pourquoi veux-tu qu'on ne le sache pas ?»
Huck, réticent, se perdit dans des explications embrouillées, disant seulement qu'il en savait déjà trop long sur l'un de ces deux hommes et que pour tout l'or du monde, il ne voulait pas que cet homme apprît que lui, Huck, savait quoi que ce fût sur lui, car il lui ferait son affaire, c'était sûr. Le vieux Gallois promit à nouveau le secret et ajouta.
« Mais comment es-tu venu à les suivre ? Tu te doutais de quelque chose ?»
Huck prit le temps de réfléchir pour ne pas en dire plus long qu'il ne voulait.
« Vous savez, je mène une vie plutôt dure. Tout le monde le dit, du moins, et je crois que c'est vrai. Et quelquefois, à force d'y penser, de chercher le moyen de sortir de ma misère, ça m'empêche de dormir. C'était le cas la nuit dernière. Impossible de fermer l'œil. Il était quelque chose comme minuit. Je me promenais en échafaudant des plans. Et quand je suis passé le long de la briqueterie, à côté de la taverne de la Tempérance, je me suis adossé au mur pour réfléchir.
C'est à ce moment-là que les deux individus sont passés près de moi. Il y en avait un qui avait quelque chose sous le bras et j'ai pensé qu'il venait de faire un coup. Un des deux fumait et l'autre lui a demandé du feu. Ils se sont arrêtés juste devant moi. La lueur des cigares leur a éclairé le visage et alors j'ai pu voir que le grand, c'était le sourd-muet espagnol. Je l'ai reconnu à ses favoris blancs et à son bandeau sur l'œil. L'autre, il était tout déguenillé.
C'est à la lueur des cigares que tu as vu qu'il était déguenillé ?
Huck fut un instant démonté par cette remarque.
Puis il reprit.
Je sais plus, mais il me semble bien que oui.
Bon alors, dit le vieux, ils ont continué leur chemin et puis...
Et puis je les ai suivis, oui c'est ça. J'ai voulu voir ce qu'ils allaient faire. Ils avaient l'air de vouloir se cacher. Je les ai suivis jusqu'à la barrière de chez Madame Douglas. Dans le noir, j'ai entendu le petit plaider pour elle. Et l'Espagnol jurait ses grands dieux qu'il la défigurerait, comme je vous l'ai dit, à vous et à vos deux.
Quoi ? C'est le sourd-muet qui a dit tout ça ?
Huck s'était coupé encore une fois. Plus il manœuvrait de façon à empêcher le vieux de savoir qui était l'Espagnol, plus il s'enferrait en dépit de tous ses efforts. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour en sortir. Le Gallois lui faisait subir un interrogatoire serré et Huck faisait gaffe sur gaffe.
« Mon petit gars, dit le vieux, n'aie pas peur de moi. Je ne toucherai pas à un cheveu de ta tête pour tout l'or du monde. Ce que je veux, c'est te protéger. Cet Espagnol n'est ni sourd ni muet. Tu viens de le dire malgré toi. Inutile d'essayer de te rattraper. Tu sais sur son compte quelque chose que tu ne veux pas dire. Aie confiance en moi. Dis-moi ce que c'est. Je ne te vendrai pas. »
Huck regarda le vieillard bien en face. Il ne vit en lui que bonté et loyauté. Il se pencha vers lui et lui chuchota dans l'oreille.
« Ce n'est pas un Espagnol, c'est Joé l'Indien. »
Le Gallois faillit sauter en l'air.
« Je comprends maintenant. Quand tu m'as parlé de nez fendu et d'oreilles coupées, j'ai pensé que c'était de l'imagination de ta part, parce que les Blancs ne se vengent pas de cette façon-là. Mais un Indien, c'est autre chose. »
Pendant le déjeuner, la conversation continua. Le vieillard raconta qu'en dernier lieu, avant de se coucher, ses fils et lui avaient allumé une lanterne et étaient allés examiner la barrière et ses alentours pour voir s'il n'y avait pas de taches de sang. Ils n'en avaient pas trouvé, mais avaient mis la main sur un grand sac contenant...
« Contenant quoi ?»
Les mots étaient sortis de la bouche de Huck plus vite qu'il ne le voulait. Les yeux écarquillés, le souffle coupé, il attendait la réponse. Le Gallois étonné le regarda fixement pendant 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes et répondit.
« Des outils de cambrioleur ? Mais qu'est-ce que tu as ?»
Huck s'affala dans son fauteuil. Haletant, mais inexprimablement soulagé. Le Gallois le regarda intensément, avec curiosité, puis dit
« Ouais, des outils de cambrioleur. On dirait que cela te soulage de l'apprendre. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu voulais que ce soit ?»
Huck ne savait plus où se mettre. Sous le regard inquisiteur fixé sur lui, il aurait donné n'importe quoi pour trouver une réponse plausible. Il ne trouvait rien. Il laissa échapper la première idée qui lui passa par la tête. Il n'avait pas le temps de peser ses mots.
« Eh ben, des livres de caté et des bibles » murmura-t-il.
Le pauvre Huck n'avait certainement pas l'intention d'être drôle. Mais le vieillard éclata d'un rire joyeux qui le secoua de la tête aux pieds et il déclara qu'un tel rire valait mieux que toutes les ordonnances du médecin. Il ajouta.
« Mon pauvre petit gars, te l'a bien pâle. Tu as l'air fatigué, tu ne dois pas être dans ton assiette. Mais ça ne sera rien. Un bon repos et ça ira mieux après. »
Huck était vexé de s'être trahi si bêtement et d'avoir fait preuve d'une agitation qui pouvait paraître suspecte. En fait, dès qu'il avait entendu la conversation près de la barrière, il avait eu la conviction que le paquet emporté de la taverne ne pouvait pas contenir le trésor. Toutefois, ce n'était qu'une supposition. Il n'en était pas sûr. Et la nouvelle de la découverte du sac lui avait fait perdre son sang-froid. Dans l'ensemble, l'incident avait clarifié la situation. Huck savait maintenant que ce sac n'était pas le bon. Il était tranquillisé, tout était en bonne voie. Le trésor devait être toujours au numéro 2. Les bandits ne tarderaient pas à être pris et seraient mis sous les verrous le jour même. Tom et lui pourraient s'emparer du magot sans craindre d'être dérangés. Le petit déjeuner était à peine terminé que l'on frappa à la porte. Huck se dissimula dans un coin. Il n'avait envie d'être mêlé ni de près ni de loin aux événements de la veille. Le Gallois fit entrer plusieurs personnes, dont Madame Douglas. Dehors, des groupes de curieux montaient la côte. Les langues avaient marché. Le Gallois dut raconter aux visiteurs l'histoire de la nuit. Madame Douglas exprima sa reconnaissance en termes chaleureux.
« Ne parlons pas de ça, madame. Il y a quelqu'un à qui vous devez plus de reconnaissance qu'à mes fils et à moi. Mais il ne permet pas de dire son nom. Sans lui, nous ne serions pas arrivés à temps. »
Cette nouvelle intrigua tellement les visiteurs qu'elle faillit prendre la première place dans la conversation. Néanmoins, le Gallois refusa de satisfaire les curiosités et par là même d'être cause que toute la ville fût au courant. Il garda donc son secret. Le sujet épuisé, Madame Douglas intervint. « Je m'étais endormie en lisant dans mon lit et je dormais profondément malgré tout ce bruit. Pourquoi n'êtes-vous pas entré? Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé ?»«
Nous avons trouvé que ce n'était pas la peine. Il était peu probable que ces bandits songent à revenir. Ils avaient perdu leurs outils. Alors à quoi bon vous réveiller et vous alarmer ?»« Mes trois serviteurs ont monté la garde autour de votre maison tout le reste de la nuit. Tenez, ils viennent justement de rentrer. »
De nouveaux groupes de visiteurs arrivèrent. Il fallut chaque fois leur répéter l'histoire. Pendant les vacances, il n'y avait pas d'école du dimanche, mais tout le monde alla à l'église de bonne heure. Les fidèles, se rendant à l'église, ne parlaient que de l'événement sensationnel et disaient qu'aucune trace des deux bandits n'avait encore été découverte. Quand le sermon fut terminé, Madame Thatcher rejoignit Madame Harper à la sortie et lui demanda « Est-ce que ma petite Becky va dormir toute la journée ? J'ai bien pensé qu'elle devait être morte de fatigue. »«
Votre Becky ?» répondit Madame Harper. « Oui, dit Madame Thatcher, stupéfaite. N'a-t-elle pas couché chez vous hier soir ?»«
Mais non. » Madame Thatcher pâlit et s'affaissa sur un banc, juste au moment où Tante Polly, en grande conversation avec une amie, venait à passer.
« Bonjour, Madame Thatcher !» dit Tante Polly. « Bonjour, Madame Harper. L'un de mes neveux manque à l'appel. Sans doute Tom a-t-il couché chez l'une d'entre vous cette nuit et il n'a pas osé venir à l'église. Nous allons avoir un compte à régler ensemble, lui et moi. »
Madame Thatcher hocha faiblement la tête. Sa pâleur augmenta. « Il n'a pas couché chez moi, » dit Madame Harper, qui à son tour commençait à être inquiète. L'anxiété se peignit sur les traits de Tante Polly.
« Joe Harper, » dit-elle, « as-tu vu Tom ce matin ?»«
Non, madame. »«
Et quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?»
Joe essaya de se rappeler, mais il ne pouvait rien dire avec certitude. Les fidèles étaient tous sortis de l'église. Les chuchotements passèrent de bouche en bouche. Il en résulta pour tous une gêne de mauvais augure. On interrogea anxieusement les enfants ainsi que les jeunes surveillants qui avaient accompagné les disparus. Mais personne ne s'était inquiété de savoir si Tom et Becky étaient à bord du bac au voyage de retour. Il faisait noir, personne n'avait songé à vérifier si quelqu'un manquait. Un jeune homme exprima alors la crainte que les enfants ne fussent peut-être dans la grotte. Madame Thatcher s'évanouit à cette idée et Tante Polly se mit à pleurer et à se tordre les mains. L'alarme se répandit de bouche en bouche, de groupe en groupe, de rue en rue. Au bout de 5 minutes, le tocsin sonnait et le village entier fut sur pied. «
L'histoire des bandits de la nuit perdit toute importance. Les cambrioleurs furent oubliés. On sella les chevaux, on sauta dans les canots, le bac appareilla. Et moins d'une demi-heure après la constatation de l'absence des enfants, un ensemble de 200 personnes se dirigeait vers la grotte. Pendant tout l'après-midi, le village parut désert. Nombreuses étaient les femmes qui se rendaient auprès de Madame Thatcher et de Tante Polly pour les réconforter. Elles pleuraient avec elles. Les larmes valent souvent mieux que les paroles. Toute la nuit, le village attendit des nouvelles. Quand enfin le jour parut, le seul signe de vie que l'on eût reçu était envoyer d'autres chandelles et des vivres. Madame Thatcher était presque folle d'inquiétude et Tante Polly aussi. Monsieur Thatcher, qui était allé à la grotte, leur avait bien adressé quelques messages d'espoir et d'encouragement, mais qui ne contenaient rien de positivement rassurant. Le vieux Gallois rentra chez lui à l'aube, les vêtements couverts de taches de chandelle et de terre glaise, harassés de fatigue. Huck était encore dans le lit qu'on lui avait préparé. Il avait la fièvre, il délirait. Tous les médecins étant dans la grotte, Madame Douglas voulut s'occuper du petit malade. Elle dit qu'elle ferait de son mieux parce que, qu'il soit bon ou médiocre, ou même mauvais, il était une créature de Dieu et rien de ce qui venait de Dieu ne devait être négligé. Le Gallois dit qu'il y avait du bon dans le garçon et la veuve répondit « Vous pouvez en être sûr, c'est la marque de Dieu. Il y en a dans chacune de ces créatures. » Au début de l'après-midi, des groupes de chercheurs commencèrent à revenir au village, mais les plus robustes continuèrent les recherches. Tout ce que l'on put apprendre, c'est que les investigations s'étaient étendues jusqu'aux profondeurs les plus inexplorées de la grotte. Pas de crevasse, pas de coin qui n'ait été visité. Partout où quelqu'un se risquait dans le labyrinthe des galeries, des lumières en mouvement permettaient de le suivre. Des échanges d'appels et de coups de pistolet se répercutaient le long des sombres corridors. À un endroit, loin de la partie fréquentée par les touristes, on avait trouvé l'inscription « Becky et Tom » tracée à la suie de chandelles, au noir de fumée. Tout près de là, on avait ramassé un bout de ruban taché de graisse. Madame Thatcher reconnut le ruban et elle éclata en sanglots. C'était la dernière relique qu'elle aurait jamais de sa fille. Rien ne pouvait lui être plus précieux parce que quand elle l'avait perdue, elle était encore vivante. Quelqu'un raconta que de temps à autre dans la grotte, on voyait un point lumineux apparaître au loin. L'espoir renaissait, un groupe d'hommes s'engageait dans la galerie, mais ce n'était que pour éprouver un nouveau désappointement. Le point lumineux n'était constitué que par les chandelles d'un autre groupe de chercheurs. 3 jours et 3 nuits s'écoulèrent. Le village sombra dans un profond abattement. Personne n'avait plus de cœur à rien. La découverte, faite tout à fait par hasard, que le propriétaire de la taverne de la Tempérance, avec un dépôt clandestin d'alcool, n'attira que faiblement l'attention, quelque importante que fût cette nouvelle. Dans un intervalle de lucidité, Huck amena la conversation sur les tavernes en général, et finalement, craignant confusément le pire, il demanda à Madame Douglas si quelque chose avait été découvert à la taverne de la Tempérance depuis qu'il était malade. « Oui, dit-elle. » Les yeux hagards, Huck se dressa sur son séant. « Quoi ? Quoi donc ? » ?»« De l'alcool ? On a fermé la taverne, mais reste tranquille, mon petit. Quelle peur tu m'as fait. Dites-moi encore une chose, rien qu'une, je vous en prie. Est-ce Tom Sawyer qui l'a découvert? La veuve éclata en sanglots.
Chut, chut, mon petit. Je t'ai déjà dit que tu ne devais pas parler. Tu es très, très, très malade.
Ainsi, on n'avait découvert que de l'alcool. Quel bruit se leur a fait si on avait découvert de l'or? Alors le trésor avait disparu et il fallait en faire son deuil. Mais pourquoi Madame Douglas pleurait-elle? C'était curieux qu'elle pleurât comme cela. Huck ressassait continuellement ses mêmes pensées. Sous l'effet de la fatigue qu'elle lui causait, il ne tarda pas à s'endormir.
Là, il dort le pauvre petit, se dit Madame Douglas.
Il demande si Tom Sawyer a trouvé l'alcool. C'est Tom Sawyer qu'il faudrait retrouver. Hélas, il n'y a plus beaucoup de gens maintenant qui gardent assez d'espoir ou assez de force pour continuer les recherches. Chapitre 31. Dans la grotte. Revenons-en au rôle joué dans le pique-nique par Becky et Tom. Une fois dans la grotte, en compagnie de leurs camarades, ils avaient parcouru les galeries obscures, visité les merveilles connues qui portaient des noms ronflants tels que le salon, la cathédrale, le palais d'Aladin, etc. Bientôt commença une partie de cache-cache dans laquelle Tom et Becky firent preuve de leur entrain habituel. Puis, ce jeu finissant par les lasser, ils s'engagèrent à la découverte dans un couloir sinueux en tenant leur chandelle au-dessus de leur tête pour pouvoir déchiffrer le fouillis de noms, de dates, d'adresses et de devises tracées à la suie sur le roc. Distraits par leur bavardage, ils se rendirent à peine compte qu'ils atteignaient une partie de la grotte dont les parois ne portaient plus d'inscription. Avec leur chandelle, ils tracèrent à leur tour leur nom sur une saillie du calcaire et poursuivirent leur chemin. Peu après, ils arrivèrent à un endroit où un petit filet d'eau coulait goutte à goutte d'une corniche. L'eau, contenant de la chaux, avait au cours des âges transformé la pierre impérissable en une sorte de Niagara en miniature. Tom se glissa derrière le rideau de pierre transparente et l'illumina pour le grand plaisir de Becky. De l'autre côté, Tom découvrit une sorte d'escalier naturel assez escarpé entre deux parois rapprochées. Il n'en fallait pas plus pour faire renaître en lui la vocation d'explorateur. Becky accepta. Ils tracèrent à la fumée un repère en vue de leur retour et commencèrent leurs recherches. Ils allèrent de droite et de gauche, descendant jusque dans les profondeurs secrètes de la grotte, tracèrent un autre repère et suivirent un embranchement à la recherche de nouveautés qu'ils comptaient révéler au monde extérieur. Ils pénétrèrent dans une vaste salle, du plafond de laquelle pendait une multitude de stalactites brillantes de la longueur et du diamètre de la jambe d'un homme. Ils parcoururent la salle, admirant, s'émerveillant, et peu après en sortirent par l'une des nombreuses galeries qui aboutissaient à cet endroit. Ce passage les conduisit à une ravissante cascade dont le bassin était incrusté de fleurs de givre et de cristaux brillant à la lumière. C'était au milieu du souterrain, dont les murs étaient étayés par un grand nombre de piliers fantastiques formés par la jonction des stalactites et des stalagmites, le résultat de l'incessant égouttement au cours des siècles. Au plafond, de véritables essaims de chauves-souris qui s'étaient rassemblés là par milliers. La lumière les affola et elles s'abattirent par centaines sur les chandelles en poussant des cris stridents. Tom, qui connaissait les habitudes de ces animaux, vit le danger. Il prit Becky par la main et l'entraîna dans le corridor le plus proche. Bien lui en prit, car une chauve-souris éteignit d'un coup d'aile la chandelle de Becky au moment où elle sortait de la salle. Les chauves-souris poursuivirent les enfants, mais ceux-ci changèrent de couloir au fur et à mesure qu'ils s'en présentaient et finirent par se débarrasser de ces dangereux animaux. Tom découvrit bientôt un autre lac souterrain dont les bords se perdaient dans l'ombre. Son intention était d'en faire le tour. Il décida toutefois de prendre d'abord un peu de repos. Alors, et pour la première fois, le profond silence qui régnait en cet endroit, ainsi que la moiteur de l'atmosphère, firent aux enfants une impression saisissante.
« Je n'y ai pas fait attention, dit Becky, mais il me semble qu'il y a une éternité que nous n'avons pas entendu les autres. Pense donc, Becky, nous sommes au-dessous d'eux, et je ne sais à quelle distance ni dans quelle direction. Il serait impossible ici de les entendre. »
Becky prit peur.
« Depuis combien de temps sommes-nous là? Ne ferions-nous pas mieux de revenir ?»«
Oui, Becky, peut-être, dit Tom.
« Peux-tu t'y retrouver, Tom? Moi, je m'y perds. »
« Je pourrais, s'il n'y avait pas les chauves-souris. Si elles éteignent nos deux chandelles, nous serons dans de jolis draps, dit Tom.
Essayons de nous en tirer sans passer par là. » « Oui, mais pour l'amour de Dieu, Tom, ne te perds pas, ce serait affreux, dit la petite tremblante à cette idée. »
Ils s'engagèrent dans une sorte de couloir, regardant à droite et à gauche pour voir s'ils ne reconnaîtraient pas un chemin déjà parcouru. Mais tout leur était inconnu. Chaque fois que Tom inspectait les alentours, Becky guettait sur son visage un signe d'encouragement. Il s'efforçait de paraître gai.
Ça va bien, ce n'est pas encore celui-là, mais nous finirons bien par y arriver. » Mais à chaque échec, il avait de moins en moins confiance et bientôt commença à changer de direction à chaque croisement dans le fol espoir de trouver le passage qu'il cherchait. Il continuait à dire « Ça va bien !» mais se sentait envahi par une telle angoisse que les mots ne correspondaient plus à ce qu'il devait exprimer et résonnaient exactement comme s'il avait dit « Tout est perdu !» Becky, prise d'une terreur folle, se cramponnait à lui et faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas pleurer. Mais les larmes finirent par couler malgré elle. Enfin, elle dit
« Oh Tom, tant pis pour les chauves-souris, retournons par là. Par ici, tout me semble aller de mal en pis. »
Tom s'arrêta. « Écoute, » dit-il. Un profond silence s'ensuivit, si profond que le bruit de la respiration des enfants prit dans ce calme une importance inaccoutumée. Tom appela. L'écho répercuta son appel le long des galeries désertes et s'affaiblit au fur et à mesure de la distance jusqu'à ne plus ressembler qu'à un rire macabre.
« Oh, ne fais plus cela, Tom, c'est trop horrible, » dit Becky.
« C'est horrible, mais il le faut, Becky. Quelqu'un pourrait nous entendre, tu le sais. » Et de nouveau, Tom appela. Ce « pourrait » avait un sens tellement tragique qu'il donnait le frisson plus encore que le rire spectral qu'il venait d'entendre. C'était pour Tom l'aveu du déclin de son espoir. Immobile, les enfants écoutaient, mais sans résultat. Tom voulut revenir sur ses pas. Il se hâta. Au bout de quelques instants, les symptômes d'une certaine indécision de sa part révélèrent à Becky l'horrible réalité. Il ne retrouvait plus son chemin.
« Oh Tom, tu n'as pas fait de repère !»
« Becky, c'est de la folie de ma part. Je n'ai pas pensé que nous en aurions besoin pour revenir. Je ne peux plus retrouver le chemin. Je m'embrouille. »«
Tom, Tom, nous sommes perdus, nous sommes perdus. Nous ne pourrons plus jamais sortir de cette horrible grotte. Ah, pourquoi diable avons-nous quitté les autres ?»
Elle se jeta à terre et eut une telle crise de larmes que Tom prit peur. Allait-elle mourir ou perdre la raison ? Il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Elle appuya la tête sur l'épaule de Tom, se serra contre lui, donnant libre cours à son angoisse, exprimant d'inutiles regrets dont le lointain écho lui renvoyait une parodie lugubre. Tom la supplia de reprendre courage. Elle dit qu'elle ne s'en sentait pas la force. Il en vint à s'accuser d'être responsable de tout le mal. Cette confession provoqua une réaction salutaire. Becky déclara qu'elle essaierait de reprendre confiance, qu'elle se lèverait et le suivrait où il voudrait. « À condition que tu ne parles plus comme cela, » dit-elle, « c'est autant de ma faute que de la tienne. » Ils se remirent à marcher sans but, au hasard, puisqu'il ne leur restait rien d'autre à faire. Un moment, l'espérance parut renaître, sans raison, simplement parce que l'espoir est chose naturelle chez les êtres humains, tant qu'il n'a pas été émoussé par l'âge et l'expérience. Fin de la deuxième face de la huitième cassette, Les aventures de Tom Sawyer, par Mark Twain, page 226.